Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Mester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans Remède à la mélancolie, une émission préparée par Laure Grand-Besançon et Marie-Lucie Walsh, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, Bruno Poncelet. La gourmandise du jour m'a été suggérée par l'épatante Laure Grand-Besançon un soir de découragement. C'est un texte d'une quinzaine de pages que Marguerite Duras a publié en 1993 sous le titre « Écrire ». Elle y aborde avec sa délicatesse coutumière les thèmes de la solitude et de la folie, soit le fondement, la condition et le produit de l'acte créateur, acte qui pourtant permet à l'écrivain de s'y soustraire. L'écriture pour Duras, c'est hurler sans bruit. Elle a alors cette jolie formule « écrire quand même malgré le désespoir ». Non avec le désespoir. Un mouvement qui peut s'adapter à toute entreprise douloureuse. Dans l'épreuve, le laborieux, il y a la beauté qu'il faut s'exercer à voir. Comme Duras le fait lorsqu'elle parle un peu plus loin des dernières minutes de la vie d'une mouche ordinaire. Notre apothicaire de l'âme lorsqu'elle apparaît sur les pellicules trouble et attendrie. Dans des films de Christophe Honoré, de Claire Denis ou de Xavier Beauvois, en fille de joie ou en princesse de Clèves contemporaine, elle bouleverse. Peut-être est-ce pour cela qu'on l'associe souvent à des choses mélancoliques. Pourtant, elle excelle également dans la drôlerie. Citons simplement le film d'animation de Marjane Satrapi, Persepolis, dont elle est la réjouissante voix principale. Il y en a plein d'autres que j'aurais pu citer, mais il y a celui-là qui me vient en tête. Il paraît que beaucoup de gens, en apercevant son enjouement dans la vie réelle, s'étonnent. Dans Trois cœurs de Benoît Jacquot, elle a ce geste qui consiste à redresser les commissures de sa bouche avec la main avant de former un sourire. Puisse cette émission esquisser le même mouvement dans nos psychés. Bonjour Chiara Mastroianni.
Bonjour.
Tout d'abord, je vais vous demander de nous faire entendre le bruit de votre âme. Vous avez le droit à tous les bruits, mais aucun mot. C'est un soulagement, non ?
Mais ce qui est pas mal, c'est que ça pourrait être un soulagement une exaspération, mais là en l'occurrence je suis en face de vous, donc c'est un soulagement.
C'est gentil, mais une exaspération très chic, avec un nœud papillon, pas une exaspération haineuse en tout cas.
Non mais attendez, oui, j'ai une éducation, vous ne vous rendez pas compte.
Vous êtes un dandy.
Et puis surtout, je suis avec vous. Si vous me dites, vous m'aviez dit un bruit seul chez moi, avec aucun témoin, j'aurais fait autre chose.
Ah
sans
oui,
doute.
Lequel par
ah
exemple
bah non, mais ce serait trop facile.
Bon alors, avant d'affleurer la félicité, parlons spleen. Quel rapport entretenez-vous, Chiara Mastroianni, avec la mélancolie ?
C'est une espèce d'entente cordiale. Ça a commencé par une cohabitation assez difficile quand j'ai commencé à me rendre compte, assez tard finalement, que j'étais sans doute quelqu'un d'un peu mélancolique. On m'a dit beaucoup que j'étais contemplative, des choses comme ça, que je suis hein, certainement également, parce que ça me rassure en fait de contempler, de voir les gens qui font des choses, parce que parfois quand on est dans une attaque de mélancolie, la moindre chose, même la plus insignifiante, paraît infaisable. Donc sans doute, le fait d'être contemplative est une espèce de forme de survie qui a dû venir assez tôt chez moi. Dès l'enfance, je dirais. Et puis ensuite, la mélancolie, quel rapport j'entretiens ? C'est compliqué, la mélancolie, parce que à la fois, on a l'impression qu'on voudrait s'en débarrasser, en même temps, c'est aussi une forme de repère quand c'est là depuis longtemps. Donc, il faut se méfier de l'attachement aussi que ça peut être.
Un repère.
Oui, j'ai lu quelque part, alors évidemment je vais sûrement dire les mots dans l'autre sens, je suis incapable de vous dire qui l'a écrit et tout ça, mais quelque chose du style, la mélancolie c'est le bonheur d'être triste.
Ah oui, c'est Victor Hugo.
Ah, voyez, bon. Oui. C'est les bons mots ?
Oui, oui,
ah
bah, c'est
c'est
le
dingue. Ouais. Bon, ben voilà. Bravo. Alors, et cette phrase, je m'identifie beaucoup à ça.
Donc il y a une volupté.
Oui, mais il faut s'en méfier parce que passer l'adolescence, etc., et tout ça, machin, à un moment donné, il faut. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche.
Donc c'est plutôt une mélancolie
mais
douce.
Mais ça peut empêcher la mélancolie. Bien sûr, il y a des phases
tétanisantes,
effrayantes, ou des premiers signes parfois qu'on repère et on se dit eh merde, c'est reparti pour un tour. Mais sinon, voilà, moi pour moi, c'est pas plus grave que ça. Et puis Mais voilà, je voulais te tenir à dire que ce serait trop simple que de dire que c'est juste un truc dont on a envie de se débarrasser. Parce que malheureusement, il y a aussi une forme d'attachement.
Mais je pense que c'est ce qui fait justement toute la complexité de la mélancolie.
Oui.
Et parfois, on se surprend à rien faire pour en sortir, alors que c'est très douloureux.
Oui, mais vous voyez, par exemple, à un moment donné, bon, il y a aussi une forme, à ce moment-là, qui peut être... C'est pas qu'on veut rien faire, c'est que parfois, on croit qu'on ne peut rien faire. Mmh. On en parlera tout à l'heure, j'imagine, mais dans l'histoire des chansons, oui. Par exemple, quand vous posez la question de dire quelle est la chanson à ne pas écouter en cas de spleen ultime, j'imagine que vous vous attendez à ce que moi, je vous donne des titres de chansons gays. Or, j'ai remarqué, dans mon cas à moi, après je ne parle au nom de personne d'autre, que parfois, au contraire, d'aller vers une chanson encore plus triste, m'a fait que voilà, on pleure un bon coup et après on passe à autre chose. Que, curieusement, quoi, comme...
Non mais ça
moins
revient,
par,
ça
moins
revient.
Par moins fait plus, ou...
Bien sûr, comme un vaccin,
peut-être
ça revient souvent dans
l'émission. Peut-être qu'on souffle un peu là-dedans, durant 3 minutes, le temps d'une chanson, mais bon, c'est pas bien
peut-être
grave.
Peut-être que ça purifie physiologiquement, c'est-à-dire on se débarrasse de toutes les sécrétions splénétiques et puis on peut repartir.
Bon, ouais, j'aimerais bien.
Ouais, moi aussi.
J'y crois pas trop.
Moi non plus,
là.
Hein, ça va. Bon alors, chers auditeurs, préparez-vous, voici le sommaire. Dans quelques instants, Chiara Mastroianni convoquera, entre autres, Will Ferrell en roi du patin, Gary Cooper en Candide clairvoyant, Les Simpsons, Montaigne, le poète anglais Percy Bysshe Shelley, un roman drôlatique de Nick Hornby, Marvin Gaye et George Harrison, une pizza et des artistes contemporains en pagaille. Voilà.
Tell you what I'm thinking, and yet you always seem to get it right. Now I've been loving what you're giving, it never stays away from right. So if you kiss me in the morning, oh, you better close the night. And I wake up with this feeling, and my body aches for you, and I know.
Georgia Smith, Kiss Me in the Morning dans Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Chiara Mastroianni et de Frank Capra.
Quand il était ici, au sommet de la courbe, il se montrait plein de gentillesse et d'affection envers ses semblables. Il voulait qu'ils se rassemblent et a décidé de donner une réception. Mais depuis un moment, son humeur avait changé. Il se trouvait à nouveau dans le creux de la vague, dépression, mélancolie, et quand les invités arrivent, il les met à la porte. Ils sont devenus des ennemis imaginaires. Je vois d'autres exemples. L'exaltation, quand il joue du tuba, quand il fait de la poésie, quand il veut lutter contre l'incendie dans son désir d'aider l'humanité. Quel contraste avec son humeur actuelle. Il est tombé si bas que même l'instinct de conservation lui fait défaut.
1936, l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra, d'après une nouvelle de 35 de Clarence Buddington Kellen, qui s'était autoproclamé meilleur écrivain américain de seconde zone. C'est juste pour ça que je vous le dis, parce que je trouve ça rigolo. Et donc, c'est un film qui commence par un accident de voiture et la mort d'un millionnaire. Et d'un coup, on est projeté dans le Vermont à Mandrake Falls, dans la vie de Gary Cooper, qui est un gentil naïf. Enfin, c'est ce qu'on croit au début. Il s'appelle Longfellow Deeds. Il écrit les poèmes des cartes postales qu'on envoie pour les célébrations et on lui annonce qu'il vient d'hériter de 20 millions de dollars. Et il réagit dans l'indifférence la plus totale. Il joue du tuba. C'est évidemment le début des ennuis. Il va aller à New York et tout le monde est corrompu, évidemment.
Oui, voilà. Il va être entouré de gens qui, sous prétexte de vouloir le plus grand bien, en fait, vont essayer de le manipuler, croyant que c'est un candide, parce que, en fait, c'est un être assez pur, je dirais, au sens vraiment de innocent, mais pas du tout stupide. Et je vous laisse continuer parce que vous faites ça beaucoup mieux que moi.
Ah non, mais vous le faites très bien. Et là, la scène qu'on entend, en fait, que je suis obligée de passer en français parce que, en fait, là, les extraits que j'ai pris de films sont très bavards.
C'est de ma faute.
Non, pas du tout. La scène qu'on vient d'entendre, c'est son procès, en fait. Et c'est un médecin qui parle. On essaye de le faire passer pour un maniaco-dépressif et on essaye de le faire accuser de folie, puisqu'en fait, il essaye de gérer son argent d'une façon beaucoup trop pure et généreuse. Et ça dérange absolument tous les parasites new-yorkais. Et c'est un film magnifique. En même temps, moi, je vous avoue, j'ai pleuré dans certaines scènes. Par exemple, quand il y a ce paysan qui sonne chez lui et qu'il le menace de mort parce qu'il est désespéré et qu'il n'a plus rien.
Oui.
J'ai la chair de poule là en vous en parlant.
Moi aussi, je me souviens très bien. Mais ce n'est pas grave de pleurer. Et il y a des choses qui sont effectivement très émouvantes dans les films de Capra, mais je trouve, je suis pas du tout spécialiste ni quoi que ce soit, mais simplement moi, ce que je ressens quand je vois ces films-là, c'est que il y a une espèce de toute façon de foi en la vie et même si c'était émouvant et par moments triste, ça reste pour moi profondément joyeux quand même.
Moi, je pense que c'est ça qui me fait pleurer, c'est la démonstration de la bonté humaine chez Capra, parce que c'est trop beau et j'ai l'impression que ça n'existe pas dans la réalité. On le sait quand même.
Oui, effectivement, parfois les choses sont tellement intolérables que finalement, comme vous dites, ce monde-là n'existe pas. Eh bien moi, je préfère croire que si, quand je vois des films. Et c'est pour ça que voir des films, pour moi, c'est un truc indispensable. Vraiment, pas parce que j'en fais, mais parce que, avant toute chose, mais vous me direz, c'est une façon d'échapper aux choses. J'admets, j'assume totalement. C'est juste de pas arriver au stade où on croit que le film est plus fort que la vie. Non, la vie, quand même, reste plus forte que les films.
Bon,
mais les films, ils les aident à accompagner la vie, parfois.
Alors, rentrons dans un autre film.
Oui.
Michael Michaels, une tornade sexuelle sur glace qui vit le jour dans les flammes de l'enfer de la Motown.
Une enfance difficile, si c'est le fait d'être un petit gars de 10 ans qui s'envoie en l'air avec une fille de 35 ans, oui, sûrement.
À 12 ans, Chaz échappa à une vie de trafiquant de cigarettes et de feux d'artifice en devenant une star des milieux obscurs du patinage underground. Il est le seul patineur à avoir remporté 4 championnats nationaux et un prix de meilleur acteur porno. Ce qui ne veut pas dire que cette bête de sexe n'a pas un côté romantique. Il a récemment publié un recueil de poèmes. Laisse-moi mettre mes poèmes en toi. Deux hommes, un seul vainqueur. Est-ce que ce sera Chaz Michael Michaels?
Ma phrase préférée? Retire tes habits, chérie.
2007, c'est Les Rois du Patin, la comédie américaine de Josh Gordon et Will Speck. Et dedans, il y a l'extraordinaire Will Ferrell qui, par sa simple présence, fait rire.
Ah oui, c'est Will Ferrell. Les Rois du Patin, j'ai dû le voir 20 fois au moins. Will Ferrell, je le trouve absolument extraordinaire. Je le trouve extraordinaire dans les films. Je le trouve extraordinaire aussi. J'ai vu plein de trucs que j'avais pas vu de lui. Où il a un culot sur scène, par exemple, lors de remises de prix. Où le personnage, si vous voulez, bien sûr, joue un personnage à ce moment-là parce que c'est Will Ferrell, mais en même temps, il a quelque chose à la fois de très sincère. Et enfin, moi, il me rend complètement dingue. Je suis vraiment dingue de Will Ferrell, que ce soit quand il fait ses discours de remerciement ou il insulte à moitié sa femme qui est là, mais en même temps, tout le monde a très bien compris que c'est de l'humour, heureusement, parce que les gens ont beaucoup, beaucoup de mal à comprendre l'humour aujourd'hui, je trouve. Mais voilà, j'ai dit Les Rois du Patin parce que c'est vraiment celui que j'ai vu le plus, mais je dois dire la vérité, les films de Will Ferrell, je les ai tous vus, quoi.
Et dans Les Rois du Patin, il est extraordinaire, il est... c'est en fait ces deux patineurs artistiques qui se haïssent totalement.
Absolument.
Ils sont radiés totalement.
Ils sont concurrents. C'est pour ça qu'ils se haïssent au départ.
Hein. Oui. Et donc on leur interdit de concourir. Et puis finalement, oui. la seule façon de revenir sur la surface, c'est de patiner ensemble comme un couple.
Exactement.
Et c'est vraiment très très drôle. Je l'ai revu aussi pour la 12e fois et j'ai autant ri que d'habitude.
C'est quand même dingue.
Ouais.
Ça marche à tous les coups.
À tous les coups. Et ça aussi d'ailleurs. Alors, mon Pierre Mastroianni, qu'est-ce qu'on entend ? Ce n'est pas une surprise.
Ah oui, non. Ça, moi, j'ai découvert les Simpsons quand ça a démarré. Et donc, j'ai grandi avec les Simpsons. Enfin,
et vous la regardez avec vos enfants
voilà,
aussi.
Voilà, j'ai eu des enfants. Mais j'ai pas arrêté de regarder les Simpsons pour autant. Et j'avoue que maintenant, c'est vrai que on continue de regarder les Simpsons tous ensemble. Et c'est quelque chose qui vraiment fait partie de notre vie. Alors, ça peut laisser complètement quoi, ce genre de réflexion. Mais j'assume complètement. Je trouve que les Simpsons, c'est vraiment le truc le plus génial. Parce que ça fonctionne pour les adultes, ça fonctionne pour les enfants. Et puis c'est d'une audace, c'est d'une je trouve ça absolument je suis folle des personnages, je me suis attachée à eux comme s'ils existaient dans la vraie vie, ce qui fait que comme ça on retombe sur nos pattes par rapport à tout à l'heure quand vous disiez c'est mieux dans les films que dans la vie. Mais voilà, les Simpsons, il y a quelque chose que je trouve incroyablement culotté et de penser que c'est fait en plus là-bas en Amérique où enfin c'est les seuls qui, dans une série, vont faire des vannes sur la propre maison de production qui les produit, quoi, la Fox en l'occurrence. Donc voilà, je suis une dame des Simpsons. Je profite d'ailleurs pour faire passer un message. Je ne comprends pas pourquoi on peut plus les trouver en DVD. J'ai vu qu'il avait été annoncé que ça s'arrêtait. Je trouve ça très très dommage. Et aussi, je trouve ça très dommage, mais j'y connais rien. Ça doit être des histoires de droit télé ou je ne sais quoi. C'est qu'il existe beaucoup plus de saisons que celles qu'on a nous.
C'est une tragédie.
Oui.
Bah, il faut absolument se réconforter tout de suite
et
avec
là,
vos
voilà,
citations.
Et là, voilà, directement plonger dans la mélancolie.
Bah oui, mais alors heureusement, Montaigne vient à la rescousse. Mm-hmm. Et donc c'est une citation qui date du XVIe siècle, et c'est « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul ». C'est une citation qu'on trouve à la fin des essais de Montaigne, au chapitre 13 du livre 3, intitulé « De l'expérience ». Et en quoi ça vous
que
console?
Que j'ai lu, bien entendu.
Bah, j'imagine.
Mais évidemment. Sauf que, faut croire que, vous voyez, c'est marrant parce que je reste toujours dans le même registre. Parce que moi, j'ai vu Marjane Satrapi l'autre jour. Et je lui ai expliqué que je venais vous voir et que je suis nulle en citation. Et elle m'a dit quelque chose, Marjane, qui je pense va, avec tout le respect que je dois à Montaigne, mais ce genre de choses-là, je ne peux pas passer à côté. Voilà le proverbe que m'a dit Marjane. Qui avale une noix de coco fait confiance à son anus.
Ah mais je la connais, mais je pensais que c'était un proverbe africain.
Ah mais c'est sans doute un proverbe africain, mais je trouve que... Celle de Montaigne, elle est très bien, mais celle-là, elle vaut le détour.
C'est vrai. Mais alors, celle-là est amusante, mais celle de Montaigne, elle permet de relativiser dans
mais
plein de situations.
Mais comment amusante? Elle est parlante, celle-là. Ben, elle veut tout dire.
C'est vrai? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour
qui avale une noix de coco fait confiance à son anus?
Je comprends, mais alors...
qu'il faut savoir rester humble.
Ah oui, pour vous, ça veut dire ça?
Moi, je vois ça comme ça.
Mais ces deux
mais enfin,
citations,
on revient toujours quand même
de toute façon, la noix de coco ou Montaigne,
et Montaigne voyez.
C'est quand même l'humilité, mais ça veut ouais. aussi dire que toutes nos tentatives de transcendance de la condition humaine sont dérisoires.
Mais oui, mais j'ai fait toutes les réponses à votre questionnaire où j'étais en super forme, et puis à force de trop penser à ces histoires de mélancolie, eh ben, y a certaines réponses où la mélancolie m'a gagné, et quand j'en suis arrivée aux citations, j'avoue, j'ai sombré, parce que encore, vous n'avez pas cité
l'autre.
Celle... Oui,
oulala.
L'autre, appelons-la l'autre.
Oulala, malheureuse.
Et c'est là que vous voyez que c'est très étonnant, c'est ça qui est super compliqué parfois, c'est que selon l'heure ou le jour de la semaine auquel on a une certaine conversation, ça peut être totalement différent. C'est une chance aujourd'hui, ça va.
Nous sommes plusieurs personnes,
nous allons bien aujourd'hui.
Oui,
mais quand j'en suis arrivée à chercher des citations pour vous, voilà ce que je finis par choisir.
Et bien justement, on y arrive. L'autre, c'est Percy Bysshe Shelley, donc le poète anglais, et c'est paix, paix, il n'est pas mort, il n'est pas endormi, il s'est réveillé du rêve de la vie. Alors, je resitue ces vers, ils sont extraits de la 39e strophe du poème Adonaïs, et c'est important, puisque c'est le poème que Shelley a écrit après la mort de son ami John Keats en 1821, qui est mort d'une tuberculose, et ensuite Mick Jagger a repris ces vers lors d'un concert en 69 après la mort de Brian Jones, qui s'est noyé dans sa piscine. Et Shelley, lui, se noie un an et demi après la mort de son ami, avec des vers de son ami sur lui. Remède
c'est
à la mélancolie. C'est très émouvant.
Oui.
Je trouve ça très,
donc
très
c'est
beau.
Attirant aussi.
C'est
forcément.
Vrai. Mais alors en quoi est-ce consolant? Vous le prenez au premier degré ou au second degré cette citation? Parce que ça peut vouloir dire nous sommes endormis dans la vie terrestre.
Eh bien là, je dirais, pour m'en sortir, que c'est pas du consolant à déguster tout de suite, voyez, c'est pas du fast-food, c'est plutôt du consolant en mode allez, je vais plonger avec lui, et puis après on ressort. Vous voyez, c'est plus comme quand je vous dis je préférerais écouter une chanson triste si je suis triste.
Parce que pour moi, en fait, comme je sais que Shelley était athée, je pense pas qu'il est en train de dire oui, on accède à des choses merveilleuses en mourant. Il est en train de dire, il est en train de dire, vous voyez cette tête de cadavre. Bon bah c'est ni parce qu'il dort, ni parce qu'il est mort, c'est parce qu'en fait il voit les choses comme elles sont. Donc évidemment, on a une tête de cadavre quand c'est le cas. Bon bah nous sommes d'accord. On vient de convoquer Brian Jones et Shelley de noyer. C'est donc le moment ou jamais de passer ce titre de la playlist de France Inter, La Rivière de O comme la lettre.
De la montagne, le cours d'eau est un fil d'Ariane. Il les arde les champs et emporte les âmes en avant. Quand t'approches les lumières de la ville, il sait se tenir tranquille.
Remède à la mélancolie sur France Inter, nous sommes toujours en compagnie.
Qu'on donne beaucoup de remèdes. Hein.
De Chiara Mastroianni. On va parler du livre que vous avez choisi, qui m'a beaucoup amusée. Mais alors, je vous avoue que j'ai eu quelques moments de gêne dans le métro ou avec des amis parce que tout le monde m'a jugée sur la couverture de ce livre qui est grotesque.
C'est drôle que vous disiez ça parce que moi, j'ai deux éditions de ce livre. Ça va beaucoup intéresser les gens qui sont derrière leur poste et qui ne voient pas du tout ce que nous, on voit.
Bah, on voit un Bouddha.
Voilà. Donc, ça fait comme si vous faisiez un guide à la spiritualité.
Voilà, il y a
ça,
marqué la bonté, mode d'emploi.
Voilà, mais ouais, je vois très bien. Je vois très bien ce que vous avez pu essuyer comme truc. Parce que moi aussi, je la trouve ratée, cette couverture-là, alors que la mienne est vachement bien, parce c'est que vrai. Moi, c'est un mec en jean avec des ailes.
Beaucoup mieux.
Ouais.
Bah, de toute façon, les ailes avec le jean,
surtout,
ça marche
en
toujours.
En tout cas, ça fait pas genre j'ai un mode d'emploi sur moi pour non. être gentil avec les autres.
Alors que moi, oui.
Mais je tiens à dire, moi, je suis fan. Vous voulez en parler ? Allez-y.
Non, bah, c'est, je peux juste vous dire que la couverture est trompeuse, que c'est un roman de Nick Hornby paru en 2001. Mais moi, je vous laisse, Chiara Mastroianni, nous dire de quoi il s'agit.
Non, mais moi, j'adore les livres de Nick Hornby. Hein. J'ai découvert Nick Hornby avec Haute Fidélité.
Et qui puis est adapté au cinéma.
Ouais. Il y a eu Juliette Naked. Enfin, j'adore les livres de Nick Hornby. En plus, je trouve que c'est un des auteurs qui parle le mieux de la musique. C'est, quand on lit Haute Fidélité, je trouve que c'est parce que c'est pas toujours évident de parler de musique dans les livres. Et ce qu'il fait aussi dans Juliette Naked est formidable. Bref, j'adore cet auteur. Cela dit, ce n'est pas son roman que je préfère, mais comme vous m'avez demandé de sélectionner une page qu'il faut que je vous lise, et que, évidemment, dans un premier élan, j'ai pensé tout de suite à ça, parce que c'est une situation que j'ai trouvée très cinématographique comme scène d'ouverture d'un film. Enfin, voilà, c'est à ça que j'ai pensé. Maintenant, évidemment, après coup, une fois que l'élan est passé de se dire « Tiens, je vais lire ça, c'est une bonne idée », maintenant, j'ai des doutes. Je me dis peut-être que ça ne fait rire que moi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez
Mais ça, c'est la vie.
Ça, c'est la vie.
Bah, allez-y, bon, je vous en prie, vous voulez que je résume l'histoire avant ou après?
Bah, c'est peut-être mieux.
L'héroïne, c'est Cathy, un médecin généraliste. Elle a un amant, elle veut divorcer de son mari avec lesquels elle a des scènes absolument merveilleuses et jubilatoires parce qu'elles sont très violentes et
Sachant
très
que
haineuses.
Son mari est un écrivain complètement raté.
Qui fait des colonnes dans un journal
au
où
vitriol.
Il écrit pourquoi il est énervé contre le monde contemporain. Et du jour au lendemain, suite à sa rencontre avec un guérisseur qui lui enlève un lumbago, un guérisseur spirituel, son mari devient le parangon de la vertu et de la bonté. Et il veut que tout le monde accueille des SDF.
Et il fait venir le guérisseur.
Oui, oui, qui vit maintenant chez eux.
Et donc sa femme se retrouve confrontée à devoir accepter quelque chose qu'elle lui avait toujours reproché, c'est-à-dire qu'elle le trouvait trop aigri, acerbe, etc. Et tout à coup, il devient bon. Et elle ne l'aime pas forcément tout de suite plus.
Non, il est
autant.
Insupportable, il faut le dire. Quand même.
Voilà. Alors, donc, je vais vous lire. Donc, c'est la première scène d'ouverture. Hein. Je me trouve au milieu d'un parking à Leeds au moment où j'annonce à mon mari que je ne veux plus être sa femme. David n'est même pas dans la voiture avec moi. Il est à la maison avec les enfants et je lui téléphone sur mon portable pour lui rappeler de faire un mot pour Molly. Le reste, eh bien, le reste m'échappe. Une erreur, c'est sûr. Même si je suis apparemment et à ma grande stupéfaction le style de personne capable de dire à son mari qu'elle le quitte, je ne pensais pas être capable de dire une chose pareille au téléphone au milieu d'un parking. Comme quoi, on se fait des idées fausses sur soi-même. Je peux affirmer que j'ai une bonne mémoire des noms, par exemple, puisque j'en ai retenu des milliers et n'en ai oublié qu'un ou deux. Mais mettre fin à son mariage, les gens font ça une bonne fois pour toutes ou pas du tout. Et si je choisis de le faire sur un portable dans un parking de Leeds, je ne peux pas ensuite prétendre que ce n'est pas mon genre, pas plus que Lee Harvey Oswald n'aurait pu prétendre que ce n'était pas son genre d'assassiner un président. Il faut parfois accepter d'être jugé sur une seule de nos actions.
C'est vif, intelligent, caustique, c'est la bonté mode d'emploi de Nick Hornby. Et ça vient d'être lu par Chiara Mastroianni. Dans toute l'œuvre de Nick Hornby, et vous l'évoquiez, Chiara Mastroianni, il y a beaucoup de références musicales.
Oui.
Et là, dans La Bonté, Mode d'Emploi aussi, ça va de Bob Dylan au Spice Girl. Et l'un des chanteurs qui vous grise admirait beaucoup le premier. Here comes the sun, here comes the sun, I say it's all right. George Harrison, Here Comes the Sun, un remède de Frédéric Beigbeder Bédé aussi. Et ce qui est drôle, c'est que c'était une période de conflit terrible entre les Beatles à ce moment-là. Ils se séparent une année après. Et Harrison fait une escapade dans le jardin d'Eric Clapton. C'est quand même assez chic de faire une escapade dans le jardin d'Eric Clapton et compose cette chanson qu'on trouve sur l'album Abbey Road. Qu'est-ce que ça vous évoque, Chiara Mastroianni, cette chanson ?
Cette chanson, c'est drôle parce que selon vraiment l'humeur, je la prends d'une façon ou d'une autre. J'ai pu pleurer sur cette chanson, mais alors vraiment en mode chagrin d'amour. Et par contre, j'ai pu aussi, dans des jours vraiment où on a envie de se dire on a envie de la mettre parce que la trouvant très gaie. Donc c'est marrant, j'ai pas mal de trucs comme ça avec des chansons que j'aime qui prennent une tournure selon un peu la météo de la tête, quoi. si on peut dire ça comme ça.
Mais vous allez nous dire si c'est le cas aussi avec votre second antidote musical. Il est sorti un an plus tôt, en 1968.
One look at you, and it was plain to see you were my destiny.
With arms open wide, I threw away my pride. I sacrificed for you, dedicate my life to you. I will go where you lead.
Come on, baby.
Always there in time of need.
Marvin Gaye et Tammy Terrell, You Are All I Need to Get By, tu es tout ce dont j'ai besoin pour avancer. Et alors, bon, hors antenne, Chiara Mastroianni, on se disait quand même qu'il y avait une histoire absolument tragique derrière cette chanson.
Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi la chanson, je l'adore cette chanson.
Non, bien sûr.
Mais il se trouve que oui.
George Harrison avait un cancer du cerveau aussi, et je vous dis ça parce que Tammy Terrell en avait un aussi. Donc là, ils n'ont pas enregistré les voix ensemble, Marvin Gaye et elle.
Ah, ça, je savais pas qu'ils n'avaient pas enregistré
ensemble. Parce qu'elle pouvait plus se déplacer à cette époque, elle venait de se faire opérer.
Mais elle était très très jeune.
Ouais, très jeune, elle est morte à 24 ans et là elle était très très jeune quand le morceau est sorti. Et puis lui, bon, à part le fait qu'il sera tué par son père plus tard, il avait essayé de mettre fin à ses jours une année avant.
Mais je ne savais pas
Je dis tout ça non pas par voyeurisme, mais pour dire que même dans le pire des désespoirs ou la pire des noirceurs, on peut faire de belles choses.
Mais c'est ça qui est fascinant avec la musique, avec la littérature. La musique, c'est un truc qui m'impressionne beaucoup. Je connais moins des écrivains, donc je ne sais. Mais je suis quand même fascinée. La musique, allez, c'est plus facile d'en parler parce que c'est vraiment un accès direct. C'est quand même incroyable de voir comment tout à coup un état malheureux, etc., peut tout à coup donner naissance à des chansons où on n'imaginerait pas une seconde, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment fascinant.
Et qu'est-ce que vous ressentez alors quand vous écoutez cette chanson ?
Je sais pas, je trouve que ça fait du bien, je me dis, tout est possible, quoi. Puis, vous savez, moi, j'adore dans la rue, j'ai, en fait, presque toujours, quand je suis seule dans la rue, un casque où j'écoute la musique. Et il y a des titres comme ça, ou comme certains titres des Strokes, ou certains titres de Bowie. Enfin, je vais pas commencer à vous faire toute ma playlist, mais... Quand on sort dans la rue, je me dis, j'ai mon petit plaisir, c'est que le titre il démarre au moment où je pose le pied hors de l'immeuble. Et là, je me dis, ok, ça va aller tout seul, tranquille. Je sais pas, ça fait du bien, quoi.
Ouais, comme une BO de la vie, en fait.
Oui, un peu.
C'est vous qu'on entend, c'est une chanson que vous avez écrite avec Benjamin Biolay. Quelque part, on m'attend, on la trouve sur l'album Home, composé par Benjamin Biolay.
Absolument.
Et c'est pour illustrer l'activité qui vous enchante, c'est chanter. On aurait aussi pu prendre un extrait des chansons d'amour ou des bien-aimés de Christophe Honoré, puisque vous chantez dedans aussi.
Oui, mais chanter avec Benjamin, c'est différent. Parce que j'adore quand on fait des trucs ensemble, autant je suis absolument tétanisée sur scène et j'ai des souvenirs d'avoir participé à certains des concerts de Benjamin dans des états de douleur où même moi-même j'aurais voulu me foutre un coup de boule tellement j'étais énervante. Et autant le studio, chanter en studio, c'est quelque chose pour moi magique, absolument magique. En plus, d'avoir la chance de le faire avec quelqu'un comme Benjamin, qui vous met en confiance, parce que j'ai quand même une voix de poumon de prêtre, hein, j'ai pas une voix... Mais lui, il arrive à vous donner confiance, et surtout, il va faire un écrin de chansons qui fait que, à ce moment-là, vous croyez que vous êtes capable de chanter. Donc, et en plus, Benjamin, j'adore son travail parce qu'alors là, pour le coup, dans le genre des textes très tristes sur des mélodies très gaies, il est très fort pour ça.
Moi, Chiara Mastroianni, je suis évidemment pas du tout d'accord avec vous sur ce que vous pensez de votre voix, mais c'est souvent le cas.
Non, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas
bien sûr
une voix
que je vois
de...
ce que vous voulez dire.
La preuve, hein, c'est que je suis plus tranquille en studio où il n'y a pas la lumière du jour, on sait pas à quelle heure, ça peut, on peut durer 48 heures, tout ça, que quand vous arrivez sur scène, que vous êtes même pas capable de battre le pied en rythme de la chanson et que c'est foutu, quoi. Pour moi, la scène, c'est vraiment un truc. Donc le studio, c'est parce qu'aussi, il y a l'aspect cocon à l'intérieur, protégé, etc., portable coupé, etc.
Mais en dehors du chant, en tout cas, il y a une chose qui vous égaye, c'est la première fois que j'ai cette réponse dans l'émission, c'est ne pas préparer la cuisine, et je vous comprends, mais alors parfaitement.
Oui, parce que je lis toujours des, ou j'entends même des amis qui me disent, mais enfin, tu fais jamais la cuisine, ça. Et moi, le truc, c'est que j'adore manger, mais si je fais la cuisine, ça me coupe l'appétit. Et très franchement, c'est sans doute extrêmement égoïste de ma part, mais je préfère manger que faire à manger et de plus avoir faim après. Mais non, je fais quand même des choses. Mais oui, un de mes grands plaisirs, c'est de ne pas avoir à le faire.
Alors attention, la question suivante, de par sa perspicacité, va rester dans les annales. Chiara Mastroianni, vous nourrissez un certain amour pour les pizzas.
Oui, oui. Mais en fait, c'est
ça fait partie de vos remèdes.
Bah, ça fait partie de mes remèdes parce que, en fait, il faut revenir sur la question. La question était...
La question des pizzas.
Oui, excusez-moi. Vous m'avez quand même demandé quel est un plat culinaire qui vous requinque.
Oui.
Non, c'était pas ça?
Si.
Moi, je trouve que la pizza, ça requinque. Mais en fait, il n'y a même pas besoin d'aller chercher jusqu'à la pizza. Un bon pain avec une super bonne huile d'olive, du sel et du poivre, et c'est bon, quoi. Et ça va plus vite que de devoir faire une pizza. Non, mais la pizza, c'est parce qu'il y a ce côté, allez, c'est festif, c'est l'Italie, les Simpsons en mangent souvent.
C'est vrai.
Tout se recoupe.
Tout se recoupe. Et je sais, vous avez les deux cultures, alors je m'apprête peut-être à vous choquer, mais le saviez-vous, un Français consomme le double de pizza d'un Italien, 10 kilos par an en moyenne.
Et pourtant, elles sont meilleures en Italie. Mais est-ce que vous parlez d'un Français en Italie ou un Français en France?
Non, un Français en France.
Ah oui, non, bon, alors,
le record mondial, ce sont les Américains, 13 kilos par an.
Oui, mais elles n'ont rien à voir avec les nôtres, les pizzas là-bas.
C'est sûr, mais en tout cas, nous voilà bien éclairés sur la marche du monde. Passons des pizzas à Ravel dans une extrême décontraction. Ce n'est pas encore votre Richard Spinetti, on va y venir. C'est le morceau Lon Lon d'Angelique Kidjo, d'après le Boléro de Ravel.
Va, non te va, mi, mi, adotto, nasce. Non te va, mi, adouello. Mi adue, mi adotto, nasce. Lon lon ya ova, mi, duello. Non viva, mi, ailo. Va, non viva, adotto, ne asse. E a lon lon, non vigne. Non viva, adotto, agbe, ya wo. Non viva, adotto, agbe, ya wo. Non viva. Mia ilo agbele tekwa o mia ila mia ilo vivida na mesiame. Dum 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 dum. Va no te va mi mia no to nasce no te va mia duelo mia due mia no to nasce non lo ya uva mi duelo. Non viva mia ilo. Va, non viva dotto ne asse. E a non lo non via. Non viva dotto agbe yo wo. Non viva dotto agbe yo wo. Non viva mia ilo. Agbe le te qua wo. Mia ila. Mia ilo vivida. Non, 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 a messia me ne va bilai ci c'è monia me ne cave dama vose giù famiglio famiglia a quei agnoni giovani.
Non te va mi, mi adotto nasce, no,
Remède à la mélancolie sur France Inter, on vient d'entendre une adaptation de Ravel par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et Hasard Cosmique Chiara Mastroianni. Voici ce qui habite délicatement votre âme de noir. Ravel, Pavane pour une infante défunte, interprétée par Vlado Perlmutter, composée en 1889 et dédiée à la princesse de Polignac, l'héritière des machines à coudre Singer.
Ça, je ne le savais pas du tout.
Eh bien, je vous le dis.
Moi, c'est Benjamin Biolay qui m'a fait découvrir ça un jour où j'allais bien, où j'allais moyen. Il m'a dit, je vais te mettre un truc qui va te faire aller bien. Non, je déconne.
Non, c'est pas vrai.
Non, pas du tout. Mais c'est vraiment lui qui me l'a fait découvrir. Et j'adore ce morceau, il m'a fait découvrir ça. Il y a un autre morceau, mais comme je sais qu'on peut pas tout passer, que je vous ai donné trop de noms, trop de listes, trop de machins,
mais on mettra tout sur le site.
Bon, d'accord, voilà. Mais je lui dois une fière chandelle de m'avoir fait connaître ce morceau-là, que je trouve magnifique, mais alors d'une tristesse...
C'est vrai que c'est beau et triste, qui est mieux que moche et triste.
Absolument, ou que moche et gay, par exemple, comme c'est souvent beaucoup aujourd'hui dans l'air du temps. Oui, moi, bien triste, bien beau.
Magnifique, voilà, le spleen chic. Maurice Ravel avait dans ses compositions des accents espagnols. À notre tour, Chiara Mastroianni, sillonnons les pays où se trouvent vos artistes de prédilection.
I do have a personal discipline. I've only taken one picture of one thing, not two. I would take more than one, get so confused later when I was trying to figure out which was the best frame. I said, this is ridiculous. I'm just going to take one, that's going to be...
Vous avez reconnu sa voix tout de suite, Chiara Mastroianni. Là, c'est le premier.
Non, c'est
artiste.
Pas sa voix en fait que j'ai reconnue. Je vais vous dire, c'est ce qu'il a dit.
Ah oui.
Sur le fait une seule photo.
Alors,
pardon,
qui entend-on?
Allez-y. William Eggleston.
Ouais, donc c'est un
très,
photographe
très grand
américain.
Photographe, absolument.
Et là, il est en train d'expliquer.
Originaire de Memphis.
Bravo. Il prend jamais deux clichés de la même chose. Et il dit que c'est une discipline, mais moi, je le soupçonne plutôt de paresse parce qu'en fait, il ajoute ensuite que c'est parce qu'après, il a pas envie de choisir.
Je pense que c'est très difficile, sans doute, et très gonflant pour des artistes, je parle de vrais artistes, hein, je parle pas de parler de ce qu'ils font, et que sans doute c'est une forme de pudeur qui fait qu'ils répondent comme ça aussi. Mais je sais, pour avoir beaucoup regardé ses œuvres, parce que je suis super fan, d'ailleurs petit message hein, sur ma liste de Noël pour 2042, ça laisse le temps de se cotiser. J'aimerais bien avoir une de ces photos. Non, pour avoir vu beaucoup ces photos et lu pas mal de textes et d'interviews qu'il a donné, je ne le connais pas personnellement, mais j'en mets ma main à couper. C'est vraiment de la discipline qui, en plus, ne se voit pas. C'est pour ça que j'adore ces photos aussi. C'est que tout ce truc qu'il décrit, qui paraît très laborieux, finalement, puisque pour en faire une seule, nanana, ça se sent pas. On dirait que ces photos, elles sont prises comme ça. Comme quand vous lisez un bouquin de Modiano, on a l'impression qu'il a écrit d'un jet.
Et en tout cas, Eggleston, il dit « Je n'ai jamais senti le besoin d'enjoliver le monde ». Et c'est vrai que sur ces photos, ce qui frappe, ce sont les couleurs extraordinaires, très,
pourtant,
très saturées.
Et pourtant, il est bien plus beau, le monde, sur ces photos.
C'est vrai. Mais ce sont des photos sur lesquelles on n'a jamais froid.
Ah, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Mais en même temps, il vient de Memphis, il fait rarement froid à Memphis. Mais vous parliez d'un
froid... On se love dans ces couleurs.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elles ont quelque chose de très vivant.
Ouais.
Alors que c'est souvent des natures mortes.
Parfois, il y a quelques personnages. Des femmes à bigoudis. Mm. Bon, c'est vrai, souvent, il y a des supermarchés.
Oui, ou des vélos.
Des ampoules.
Ou des endroits un peu abandonnés, tout ça. Mais avec lui, il y a quelque chose qui fait que ça n'est pas plombant.
Bon, alors, Chiara Mastroianni, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous demander de nous dire un petit mot.
Non, on n'a plus que 8h30. Mais on a plein d'autres gens dont
oui,
il faut
on en
qu'on
a pas.
Parle.
Alors, il y a l'artiste allemand Carsten Holler.
Qu'est-ce que vous faites?
Qui, à la base, était entomologiste, c'est-à-dire qu'il se consacrait à l'étude des insectes. Et ensuite, il est devenu un créateur de toboggans.
Alors, mais et puis de champignons géants.
Géants.
Parfois même accrochés à l'envers.
C'est très ludique.
Tous ces manèges qu'il a fait lumineux. Ce qui me fait faire une transition extrêmement rapide, parce que je vois que ça va s'écourter. Je n'aurai pas le temps de parler de cette personne extraordinaire qui est Philippe Parrainaud, parce que Philippe Parrainaud aussi, le plasticien, énormément de travail sur la lumière. Et tout ça, alors là, pour moi, pour le coup, ça, tout ça, ce sont des œuvres qui font planer, quoi. On a toujours peur de parler de l'art contemporain parce que ça complexe, parce qu'on croit qu'il faut y connaître plein de trucs. Moi, j'y connais franchement rien du tout. Simplement, je vois ce qui me touche et ce qui me touche pas. Et du coup, c'est tout. C'est aussi bête que ça, quoi.
Et alors, un petit mot sur le troisième artiste que vous nous avez fait découvrir, parce que les trois sont des découvertes. C'est le sculpteur britannique Barry Flanagan, qui, lui, a une certaine inclination pour les lièvres. Il y a des lièvres en bronze qui dansent,
absolument magnifique,
qui s'élancent.
Magnifique. Magnifique lièvre en bronze. J'adore ça. Je trouve que on sent l'humour, on sent. J'adore, quoi.
Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'être venu jouer le jeu dans cette émission, Chiara Mastroianni.
Merci à vous.
Chers auditeurs, cette émission a initialement été diffusée le 27 mars 2016. Dans un instant, vous allez vous régaler avec de la poésie, avec Un été, avec Rimbaud, par Sylvain Tesson, que je salue.